Les cours du Collège de France, Luigi Rizzi, chaire linguistique générale.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. On est en train de parler des universaux du langage, de la variation syntaxique. Pour le moment, on a abordé le thème des universaux. La dernière fois, on a parlé de trois propriétés universelles qui sont vraiment essentielles et constitutives des langues humaines, en tout cas dans la perspective dans laquelle je me situe, la perspective et la tradition intellectuelle de la grammaire générative, 70 ans de travail détaillé sur la structure des langues. Donc les trois propriétés qu'on a identifiées sont d'un côté l'infinitude, le fait que nous pouvons créer un nombre illimité de phrases, une propriété qui avait frappé déjà Descartes, Galilée, comme vous vous souvenez de la discussion de la semaine passée, et ce que Chomsky appelle « the basic property », la propriété basique fondamentale de la langue naturelle. Deuxième propriété, la hiérarchie, l'organisation hiérarchique des phrases qui peut être exprimée par des structures arborescentes, des arbres syntaxiques. Puis on avait à peine commencé à parler de la troisième propriété qui est le déplacement et je vais maintenant commencer avec cet aspect. Qu'est-ce que c'est que le déplacement ? C'est le fait qu'un élément est souvent prononcé dans une position distincte de la position dans laquelle il est interprété. Donc si vous pensez par exemple à la manière dans laquelle on forme une interrogative en français, comme 4, quel livre tu veux acheter ou quel livre est-ce que tu veux acheter, l'expression quel livre est prononcée au début de la phrase, mais afin de comprendre la phrase, il faut la mettre en relation avec le verbe acheter, qui peut être éloigné, qui peut même être indéfiniment éloigné de l'élément en première position. En d'autres termes, cet élément doit être interprété comme le COD du verbe acheter ou, dans une autre terminologie, comme un membre de la structure argumentale du verbe acheter ou recevoir un rôle thématique de ce verbe. Pour être précis, l'expression « quel livre » fonctionne, pour ainsi dire, deux fois, doit être interprété deux fois dans ce type de structure, comme membre de la structure argumentale du verbe acheter et comme opérateur ayant une portée sur toute la phrase. L'interprétation d'une interrogative est une sorte de structure à opérateur variable de type pour quel x, x un livre, tu veux acheter x. Donc il y a cette double interprétation. Alors la manière dans laquelle on traite de cette double interprétation, c'est de faire en quelque sorte apparaître l'élément dans deux positions. Il y aura une représentation abstraite de la phrase, comme en 5A, où quel livre se trouve en position objet, il reçoit le rôle thématique approprié, etc. Et puis l'élément sera déplacé en position initiale, où il pourra jouer le rôle d'opérateur interrogatif. La relation entre l'élément initial et le verbe avec lequel il doit être mis en rapport peut être à distance. Donc, vous avez des structures comme 6, par exemple. Quel livre penses-tu que je devrais acheter ? Ou quel livre n'est pas en relation avec le verbe de la même phrase qui le contient, mais en relation avec une phrase subordonnée. Et cette relation à distance peut être encore à plus grande distance dans des exemples comme 7. Quel livre penses-tu que le professeur a dit que je devrais acheter ? Et là, évidemment, la phrase devient lourde, devient plus complexe, mais elle est tout à fait possible. Il faut établir cette relation à distance qui peut être illimitée, sauf que il y a certaines configurations qui ne permettent pas ce type de relation. Alors, nous pouvons dire que le déplacement, en ce sens, est une propriété universelle, une propriété que nous observons dans toutes les langues. Une langue, bien sûr, peut utiliser ou ne pas utiliser le déplacement pour une construction particulière. Par exemple, prenons encore le cas de la formation d'interrogative, une langue comme l'anglais, pour former une interrogative sur un constituant, utilise nécessairement le déplacement. Donc, quelque chose comme « B », « Which book did John read ?» est la seule possibilité. Il faut déplacer « Which book » à la position initiale. Une langue comme le français, français colloquial en particulier, admet les deux possibilités. On peut ou bien laisser l'élément interrogatif « in situ », donc sans mouvement, en français colloquial, il a lu quel livre ? C'est une manière possible de former une question, ou bien avec déplacement et inversion, quel livre a-t-il lu ? Si nous prenons une langue comme le chinois, la version in situ, donc sans déplacement, est la seule possible. Donc le chinois mandarin, une langue sujet-verbe-objet, aura, dans le cas d'une question concernant l'objet, une structure avec l'ordre canonique sujet-verbe-objet, comme dans l'exemple B, à qui ou a lu quel livre, et ça sera la seule possibilité standard, la seule possibilité normale, pour ainsi dire. Néanmoins, même une langue comme le chinois, qui utilise pour les questions la structure in situ, il utilisera le mouvement pour d'autres constructions. Par exemple, la topicalisation et la focalisation pourront utiliser le mouvement. Donc pour une question comme « 2 », on a la structure in situ avec sans changement d'ordre, sujet, verbe, objet. Mais pour la topicalisation, donc pour mettre en relief un élément, par exemple l'objet direct, on aura des structures comme « 3 », correspondantes dans l'anglais « the book », « a q read », et qui correspond à la construction romane, dans les langues romanes, avec la dislocation à gauche clitique. Hein. Ce livre, Jean le lira, par exemple. C'est le type de construction qu'on a à l'esprit. Donc, pour cette construction, le chinois a bien l'ordre indiqué en trois, objet, sujet, verbe, qui indique que l'objet a été déplacé de sa position canonique. Également, si on focalise l'objet, le chinois pourra utiliser une structure avec le mouvement comme en 4, qui correspond à la phrase clivée de l'anglais ou du français. Donc quelque chose comme « c'est ce livre que Akio a lu, non pas cet autre livre, par exemple », où le contraste est exprimé par un mouvement. Donc au mieux de nos connaissances actuelles, toutes les langues utilisent le déplacement dans quelques constructions grammaticales. Il peut y avoir variation, évidemment, comme on a vu, mais toutes les langues font quelques utilisations du mouvement. Comment exprimer le mouvement ? Mouvement ou déplacement, plutôt, on peut utiliser en effet les deux termes souvent de manière interchangeable. Si on regarde un peu l'histoire de la question, on voit que dans les cadres classiques de grammaire générative, les cadres des années 60, 70, 80, théorie standard, standard étendu, théorie du gouvernement liage, la construction de la structure et le mouvement étaient traités par deux types de règles distinctes. Il y avait d'abord ce qu'on appelait la base de la grammaire, ici, constituée du lexique et d'une manière de constituer des structures. Par exemple, dans le cadre standard, des règles de réécriture comme 1, des règles qui disaient une phrase se réécrit ou se réalise comme syntagme nominal, syntagme verbal, donc comme structure, sujet, prédicat. Donc il y avait une composante qui crée les structures, hein, ce qui engendrait des structures, à l'époque appelées structures profondes. Ensuite, il y avait une autre composante avec des règles distinctes, des règles transformationnelles, qui opéraient entre autres le mouvement, donc qui déplaçaient, par exemple, les éléments dans l'arbre déjà construit par les règles de la base de la grammaire. Et ensuite, après applications de transformation, on obtenait des structures superficielles. Un exemple de transformation pourrait être la transformation passive, formalisée plus ou moins de la manière indiquée en deux. Donc, dès qu'on a une configuration transitive, sujet-verbe-objet, Jean aidera Marie, par exemple, on peut obtenir une phrase passive en faisant bouger les éléments, en insérant certains auxiliaires, etc. Donc, on pourra obtenir quelque chose comme Marie sera aidée par Jean. Voilà. Donc, il y avait une composante transformationnelle de ce type. Donc, deux types de règles tout à fait distinctes pour la construction de la structure et le mouvement. Mais il y avait une série de problèmes avec cette manière de voir les choses. En particulier, le linguiste américain Joseph Emmons avait observé, déjà dans sa thèse au début des années 70, qu'un noyau central des transformations de déplacement était conservatrice de structures, structure preserving en anglais. C'est-à-dire, les structures créées par les transformations n'étaient pas différentes des structures créées par les règles de l'écriture, par la base. Donc, par exemple, le passif crée une configuration de type sujet-prédicat, de toute manière, syntagme nominal, syntagme verbal. Donc, on devait se poser la question de pourquoi deux types de règles complètement distinctes donnaient lieu à des structures identiques, fondamentalement. Cela pouvait suggérer, bon, on pouvait stipuler simplement la conservation de structure, mais cela pouvait suggérer qu'en effet, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce schéma, qu'il fallait unifier les règles de construction de la structure et les règles qui expriment le déplacement. C'est ce qui est fait dans les cadres récents, dans le programme minimaliste, où l'unification de la construction de la structure et du déplacement est obtenue par la simple opération combinatoire que nous avons postulée, merge en anglais, ou assemblage en français. Une opération qui dit, comme c'est indiqué en 1, on prend deux éléments, on les met ensemble et on forme une petite structure arborescente qui pourra se combiner avec d'autres structures arborescentes pour donner lieu à des structures complexes. Si on formule ce principe combinatoire de manière totalement générale, donc sans poser aucune restriction sur l'origine de A et de B, on peut distinguer deux cas. Il y a le cas de l'assemblage externe, ou external merge, où A et B ne sont pas connectés avant l'opération. Par exemple, vous avez une préposition avec un nom, Jean, vous le prenez dans du lexique, vous les mettez ensemble et vous formez le syntagme avec Jean. Ou bien, on peut avoir un assemblage interne, c'est-à-dire l'élément A peut être contenu dans B, dans un arbre partiel déjà construit, et on peut toujours l'assembler avec B. En d'autres termes, on peut penser à ces deux cas d'assemblage, l'assemblage externe, A et B sont séparés avant l'application de l'opération et ensuite on crée la structure AB, ou bien l'assemblage interne, A fait déjà partie de B, mais on le prend et on l'assemble avec B pour obtenir ce type de structure. Ou il y aura deux occurrences de A, l'occurrence originaire pour ainsi dire, et la nouvelle occurrence qu'on aura assemblée avec l'élément B. L'occurrence originaire est ce qu'on appelle la trace du mouvement. Typiquement, les traces ne sont pas prononcées, mais on verra qu'il y a quelques exceptions, et en tout cas, elles participent à la caractérisation de la forme et de l'interprétation de la structure. Voilà ici un exemple concret d'assemblage interne. Donc on part d'une structure déjà créée par l'assemblage, comme tu veux acheter quel livre, par exemple. Voilà notre B qui est toute la structure et notre A qui est simplement le syntagme objet direct quel livre. Et donc ici, on peut assembler une nouvelle fois A avec B et obtenir quel livre tu veux acheter, trace, quel livre tu veux acheter. Quel livre, version silencieuse, non prononcée de cette expression. Donc, de cette manière, on peut résoudre le problème de Emmons. Le mouvement est conservateur de structure parce que c'est un cas particulier de l'opération fondamentale de création de structure, l'assemblage. Il y a eu beaucoup de débats dans les dernières décennies en linguistique formelle sur la question de l'existence d'un processus particulier pour le mouvement. Est-ce qu'on a besoin d'une règle particulière pour le mouvement ou bien c'est un cas particulier de quelque chose dont on a déjà besoin? Les cadres classiques de grammaire générative, comme j'ai dit, donnaient une réponse positive. Oui, il y a des opérations spécifiques pour le mouvement, transformation de mouvement, move alpha dans certains cadres, etc. En tout cas, quelque chose de spécifique. D'autres cadres formels inspirés de la grammaire générative ou voisins de la grammaire générative, comme la lexical functional grammar, generalized phrase structure grammar, head-driven phrase structure grammar, certaines versions, plusieurs versions de la grammaire catégorielle, par contre, ne postulent pas des opérations spéciales pour le mouvement. Le minimalisme, comme on a vu, arrive aussi à la conclusion qu'il ne faut pas postuler une opération spéciale pour le déplacement, qui peut être vue comme un cas particulier de la construction de la structure par l'assemblage. Ces questions techniques ont été longuement débattues, mais évidemment, il faut être précis, donc il faut les poser, mais on ne doit pas perdre de vue le point essentiel. Le point essentiel est que dans les langues naturelles, un élément est parfois prononcé dans une position distincte de la position où il est interprété, et le cas des questions à partir duquel on a présenté ces considérations est tout à fait évident en ce sens. Donc, quand on parle de déplacement, on se réfère à cette propriété. Et n'importe quel cadre théorique a besoin d'une manière d'exprimer une dépendance entre positions. Par exemple, la dépendance entre un élément interrogatif prononcé au début et le verbe avec lequel il doit être mis en relation. Il est simplement inévitable, si on traite les langues naturelles, de pouvoir exprimer ces propriétés. Voilà, parfois, quand on présente ces propriétés, l'assemblage externe, l'assemblage interne, on donne l'impression qu'on parle d'un jeu formel qui est totalement indépendant et totalement séparé de toute question de sémantique, toute question de sens. Mais c'est une impression qui n'est pas correcte. En effet, ces opérations formelles sont immédiatement utilisées pour exprimer certaines propriétés sémantiques. Il y a une division du travail claire entre les deux cas de l'assemblage. L'assemblage externe crée des configurations pour l'expression de propriétés de la sémantique argumentale. Qu'est-ce que c'est que la sémantique argumentale? C'est la sémantique qui concerne le fait que quand nous parlons, nous présentons des petites scènes, pour ainsi dire, des scènes avec un certain nombre de participants. Un participant, Jean est tombé. Deux participants, Jean a vu Marie. Trois participants, Jean a donné un livre à Marie, peut-être plus. En tout cas, il y a ces petites scènes qui expriment des structures argumentales associées au verbe. L'assemblage externe est l'opération de désignation des rôles thématiques, désignation des rôles argumentaux aux éléments. Donc, par exemple, un verbe est assemblé de manière externe avec un nom, et ceci donne une configuration verbe-objet, fondamentalement. Par contre, l'assemblage interne crée des configurations pour l'expression d'autres propriétés sémantiques, la sémantique de portée-discours, ainsi dit. Qu'est-ce que c'est? Bon, il y a des opérateurs qui doivent avoir une portée, qui doivent pouvoir être capables de lier une variable dans certains domaines. Il y a des propriétés liées à l'échange informationnel, comme la topicalité, mettre en relief un certain élément, par exemple, et faire un commentaire sur cet élément, le focus, qui exprime un contraste, typiquement, etc. Et donc, toutes ces propriétés, ainsi dites, de portée-discours, sont typiquement exprimées par les langues naturelles par l'assemblage interne ou déplacement, comme nous l'avons caractérisé. Comme j'ai dit, dans une structure qui a subi un déplacement, il y a deux occurrences d'un même élément. Par exemple, dans la phrase du départ, une question en français, comme un B, « Quel livre est-ce que tu veux acheter ?» Il y a en effet deux occurrences de l'expression « quel livre ?» L'une associée au verbe duquel il reçoit le rôle thématique et l'autre dans la position distante d'opérateur qui lit une variable. Comme je disais, les traces normalement ne sont pas prononcées, mais elles sont visibles au calcul mental qui détermine la forme et l'interprétation de la structure. Réfléchissons un instant à un exemple que nous avons discuté la semaine passée, ayant à voir avec les propriétés de coréférence. Vous vous souvenez, on a des pronoms et des noms. Dans certaines configurations, ils peuvent se référer au même individu. Dans d'autres configurations, ceci n'est pas possible. Donc, on avait discuté des exemples comme deux. Près de Jean, il a vu un lion. Là, on réfléchit un instant à l'interprétation de cette phrase. Là, il est clair pour l'utilisateur humain que le pronom ne veut pas se référer à Jean, n'est-ce pas ? Dans cette phrase, il doit se référer à Pierre, quelqu'un dont on a parlé avant. Vous vous souvenez peut-être que ChatGPT avait donné une autre réponse, il s'y avait dit, non ? Hein, c'est possible. Et on va revenir sur cette question. Maintenant, pourquoi le pronom « il » ne peut pas se référer à Jean dans cette configuration ? Vous vous souvenez que le principe qu'on avait discuté, le principe de non-coréférence de Lasnik, disait simplement que dans une configuration où le pronom sécommande le nom, donc on est dans cette structure configurationnelle, la coréférence n'est pas possible. Mais ailleurs, elle devrait être possible. Donc pourquoi ici, où certainement le pronom sujet de la phrase ne sécommande pas quelque chose qui se trouve dans la périphérie gauche, donc dans une position plus haute, pourquoi ne devrait-on pas avoir la possibilité de corréférence? Ici, la théorie des traces nous donne une réponse. Parce que si nous pensons que la phrase « près de Jean, il a vu un lion » est dérivée d'une structure où le syntagme prépositionnel locatif est engendré, comme les locatifs en général, à l'intérieur du syntagme verbal, à l'intérieur du prédicat. Et donc nous partons de quelque chose comme « il a vu un lion près de Jean ». Et ensuite, il y a un mouvement. Cette expression est déplacée, topicalisée vraisemblablement en position initiale. Mais en laissant une trace dans sa position de départ, vous voyez que la configuration entre « il » et une occurrence de Jean est bien celle qui interdit la corréférence, selon le principe de Lasnik, parce que le pronom sécommande le nom. Et donc, si, en quelque sorte, toutes les occurrences d'un certain élément doivent satisfaire les principes en question, par exemple le principe de Lasnik, on obtient le résultat, grâce à la présence de la trace, d'exclure la possibilité d'une interprétation coréférentielle ici. Donc, les traces ne sont pas prononcées, mais elles participent à plein titre au calcul mental des propriétés structurales et interprétatives, comme par exemple la coréférence. On a dit plusieurs fois que les traces ne sont pas prononcées. Normalement, elles ne sont pas prononcées. Mais dans certains cas et dans certaines situations, elles sont en effet prononcées. Il y a des propriétés qui exigent la prononciation de la trace. Donc nous avons, par exemple, pour rester dans le domaine des interrogatives, plusieurs systèmes dans lesquels on prononce plus qu'une seule occurrence d'un élément interrogatif, comme « qui », par exemple. Ici, je reprends certaines données d'une thèse récente discutée à l'Université de Florence, par Giuseppe Rugna, cette année. Nous avons deux cas de figure à considérer. Il y a un cas qu'on trouve fréquemment dans les dialectes de l'Italie du Nord. Par exemple, dans un dialecte en Lombardie, une structure comme qu'est-ce qu'elle fait ou que fait-elle se prononce comme quelque chose comme deux. Cosa fa la cosa? Donc, vous avez un élément, une occurrence de l'élément WH. Quoi fait-elle? Quoi agglutiné au verbe être? Donc, que, quoi fait-elle? Quoi est? Quelque chose comme ça. Ça serait le correspondant exact de ce type de structure. Donc, il y a une occurrence haute, une occurrence basse, agglutiné au verbe être. Ça, on le trouve fréquemment dans des variétés dialectales, en Italie et ailleurs, bien sûr. Le deuxième type de construction discuté par Rugna est une construction bien connue dans des variétés colloquiales de plusieurs langues germaniques. Hein, ce n'est pas des faits que vous trouvez dans les grammaires de référence de l'allemand, du néerlandais, par exemple, mais qui sont tout à fait utilisés dans l'utilisation colloquiale de la langue. Donc vous avez quelque chose comme « quatre », par exemple en allemand, à la place de dire quelque chose comme « qui penses-tu qu'elle aime ?», on a cette structure « qui penses-tu qui elle aime ?» ou avec un autre élément WH, on aurait ce genre de choses. Donc vous voyez la différence par rapport à la structure italienne ou des dialectes de l'italien, que là vous avez des phrases simples, ici vous avez des phrases complexes, où la deuxième occurrence de l'élément WH, de l'élément interrogatif, est à la périphérie de la phrase subordonnée de laquelle on va sortir l'élément en question. On trouve ça en allemand, certaines variétés d'allemand colloquial, de néerlandais colloquial, d'autres langues germaniques comme l'afrikaans, par exemple, parlé en Afrique du Sud, admettent avec un peu plus de liberté ce genre de configuration. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les traces, normalement, ne sont pas prononcées, mais elles sont prononcées dans ces configurations? On peut dire que dans la situation normale, les traces ne sont pas prononcées à cause d'un principe d'économie qui fait qu'une seule occurrence d'un élément est prononcée dans la structure. Les autres occurrences sont totalement récupérables pour l'interlocuteur à partir de l'occurrence prononcée. Elles sont identiques, donc il suffit de les prononcer une seule fois. Donc vous avez une représentation mentale comme « un » en français, « quel livre penses-tu, quel livre qu'il faudrait lire, quel livre », qui est prononcé simplement comme « un B ». Quel livre penses-tu qu'il faudrait lire? Les occurrences plus basses de l'élément quel livre étant silencieuses, n'étant pas prononcées à cause de ce principe d'économie tout à fait naturel. Mais dans certaines configurations particulières, il peut y avoir des raisons qui prévalent sur le principe d'économie. Et ces raisons peuvent être de plusieurs natures. Par exemple, on peut avoir des raisons de nature morphophonologique. Dans les dialectes de l'Italie du Nord, discutés par Rugna, Manzini, Savoia, etc., l'occurrence basse de l'élément WH est agglutinée à une occurrence de la copule du verbe être, qui probablement fonctionne dans ces structures comme un marqueur de focus. Et la similarité, la dissimilarité formelle entre la copie, la version haute, disons, et la version basse, de l'élément interrogatif, vraisemblablement suffit à bloquer le principe d'économie. Comme elles sont différentes, il faut prononcer les deux. Donc vous avez « cosa fa la cosa » avec les deux éléments prononcés différemment. De manière analogue, dans beaucoup de langues, on peut topicaliser ou focaliser un verbe en le déplaçant en position initiale dans la forme infinitive. Mais la trace, la racine verbale, reste prononcée afin de pouvoir associer à cette racine la morphologie flexionnelle appropriée. Cette construction est possible, par exemple, en italien, on peut dire des choses comme « partire, Maria partirà domani ». Donc, à propos de « partir », topic verbal, « Marie partira demain », vous voyez que vous avez la trace, vraisemblablement, du mouvement qui est prononcée parce qu'elle doit être associée à la morphologie de temps et d'accord dans la partie interne de la phrase. Ce type de chose est très largement utilisé dans plusieurs langues africaines. Hilda Koopman, qui présentera un séminaire ici le 16 juin, a beaucoup étudié ce phénomène, mais ce n'est pas un phénomène si exotique, on le trouve aussi dans les langues romanes, comme on a vu. Donc il peut y avoir des raisons morphophonologiques pour, qui déterminent la nécessité de prononcer la trace. Il peut y avoir aussi d'autres raisons. Considérons la structure germanique. Ici, la prononciation de la trace interminière, vraisemblablement, est liée à la complexité de la construction pour le traitement. On peut réfléchir au fait que quand vous dites quelque chose comme « qui crois-tu qu'elle aime ?», il faut stocker en mémoire au début de la phrase l'élément interrogatif. On ne peut pas résoudre la dépendance dans la phrase principale, parce que le verbe de la phrase principale n'a pas l'élément en question comme l'un de ses arguments. Donc il faut garder ça en mémoire. Et on peut penser que ce stockage en mémoire de travail est facilité par la prononciation de l'occurrence inférieure qui rafraîchit la représentation de l'élément en mémoire. Donc, on arrive à ce point, puis on prononce l'élément, on prononce la trace, parce que ici l'extraction a eu lieu par étapes successives, et ensuite on peut fermer la dépendance de manière plus facile au niveau de la structure subordonnée. La plausibilité d'une motivation fonctionnelle de ce type est augmentée par l'observation que dans des expériences d'élicitation de questions complexes chez les enfants, nous trouvons exactement cette situation. La prononciation de traces à la frontière dans certains constituants, même quand la langue cible n'a pas cette possibilité, ne grammaticalise pas cette possibilité. Par exemple, on trouve cette situation en anglais enfantin, comme Rose Thornton l'a observé. Donc imaginez une situation expérimentale où vous essayez d'obtenir de l'enfant, de faire produire à l'enfant une structure comme en anglais, comme « Who do you think Grover wants to hug ?»« Qui crois-tu que Grover veut embrasser ?» Quelque chose comme ça. Alors très souvent, dans ces expériences d'élicitation, on obtient des structures comme celles indiquées en 5. « Who do you think who Grover wants to hug ?» avec une copie de l'élément WH à la périphérie de la structure subordonnée. Donc, vraisemblablement, c'est une procédure naturelle que l'enfant utilise, même s'il n'a jamais entendu ce type de structure, par exemple en anglais, parce qu'elle facilite le traitement. Et cette option, prise en considération par les enfants quand ils sont confrontés à des structures complexes, ce type d'option est grammaticalisé dans certains systèmes grammaticaux. Donc, par exemple, nous la trouvons grammaticalisée dans les variétés germaniques que j'ai mentionnées. Voilà, donc, nous avons parlé un peu du déplacement, nous avons parlé de traces. Revenons à nos trois propriétés universelles, l'infinitude, la hiérarchie et le déplacement. Maintenant, on peut voir que ces trois propriétés peuvent être ramenées à l'assemblage récursif. Donc, le caractère infini du nombre de phrases possibles est déterminé par l'application récursive de l'assemblage. Donc, une fois, deux fois, trois fois, et nous continuons à étendre la structure. Le caractère binaire de l'assemblage est à la base de la structuration hiérarchique. Donc, supposons que vous voulez construire un énoncé avec cinq mots, six mots. Si l'assemblage est binaire, vous ne pouvez pas les assembler tout ensemble en même temps. Vous devez procéder par étapes. Et ceci détermine une structuration hiérarchique. On va voir ça de manière plus claire. Et dans sa formulation la plus simple et générale, l'assemblage récursif permet d'assembler des éléments externes, mais aussi d'assembler un élément et un autre élément qui sont déjà combinés dans la même structure, ce qui crée l'option pour le déplacement comme nous l'avons vu. Voilà, donc on a parlé de branchement binaire. La première question est empirique. Est-ce qu'effectivement les arbres, les structures syntaxiques des langues naturelles sont binaires de manière systématique? Sur ce point, une contribution très importante a été donnée par Richard Kane, que j'ai déjà cité la dernière fois, dans son livre « Connectedness and Binary Branching ». Kane donne toute une série de raisons empiriques pour conclure qu'effectivement, les structures syntaxiques des langues humaines obéissent à un principe de branchement binaire. Et comment peut-on montrer ça? On peut prendre des exemples où une structure ternaire, plus que binaire en tout cas, serait plausible, et montrer que même dans ces structures, l'organisation est nécessairement binaire. Un exemple plausible de structure ternaire serait la construction à double objet en anglais ou dans toutes les langues qui admettent un double objet, n'est-ce pas? I gave John a book. On pourrait penser que John a book sont organisés de cette manière. Après tout, c'est deux objets du même verbe, donc ils pourraient être organisés de cette manière. Eh bien, il y a des bonnes raisons empiriques qui amènent à la conclusion que même dans ces structures, il y a une hiérarchie. Et en particulier, le premier objet est plus haut dans la structure que le deuxième objet. En termes du principe formel de sécommande qu'on a introduit la dernière fois, le premier objet sécommande le deuxième objet asymétriquement. Ceci peut être montré en utilisant toute une série de tests qui sont sensibles à la sécommande, qui sont sensibles au rapport respectif de certains éléments. Par exemple, on peut dire en anglais des choses comme de A, I showed John himself. Littéralement, quelque chose comme « j'ai montré à Jean lui-même Jean », fondamentalement, ok? Où le premier objet lit l'élément anaphorique, l'élément réflexif, dans la deuxième position. Mais on ne peut pas avoir le contraire. Donc « I showed himself John » ne serait pas bien formé. Donc il faut arriver à la conclusion que les deux objets sont organisés hiérarchiquement, le premier étant plus haut que le deuxième, et ceci découle d'un principe de branchement binaire, fondamentalement. On ne peut pas avoir une représentation plate comme celle-ci. Kane donne, dans son livre, plusieurs arguments pour ce type de conclusion, et la chose a été longuement discutée, évidemment, dans les décennies qui ont suivi la publication du livre de Kane. Maintenant, évidemment, l'argument empirique est décisif. Il ne faut pas oublier que la linguistique est une science empirique, c'est-à-dire une science où on essaye de décrire un objet réel, le langage. Et donc, il est fondamental, on ne peut pas décider a priori si le langage va avoir ou ne peut pas avoir une certaine propriété. C'est exactement comme la physique. Il faut prendre acte de la nature de l'objet qu'on essaye de décrire, on formule des hypothèses, on essaye de les falsifier, etc. Néanmoins, une fois qu'on a établi une certaine propriété, par exemple le binarisme de structure, on peut se poser la question pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les structures sont nécessairement binaire et non pas ternaire ou encore plus complexe. Ici, une réponse possible peut être donnée par un certain type d'argumentation qui est typique à l'intérieur du programme minimaliste. C'est-à-dire, on peut penser qu'en général, le langage choisit les moyens les plus simples pour obtenir certains buts. Et en particulier, on peut penser que l'assemblage binaire est la plus simple opération combinatoire compatible avec les nécessités expressives du langage. Qu'est-ce que cela veut dire? En effet, on peut essayer de penser à l'assemblage comme un petit dispositif input-output, donc une petite machine qui reçoit des structures et qui donne un output, l'ensemble constitué par les structures en question. Donc si on raisonne de cette manière, l'assemblage unaire, évidemment, c'est le plus simple, le mécanisme le plus simple, mais il n'aurait pas la capacité de faire ce que le système combinatoire humain doit faire, combiner des mots. Évidemment, là, ce mécanisme ne pourrait que prendre un mot en entrée et restituer ce mot en sortie, ce qui ne nous amènerait pas très loin. Par contre, l'assemblage binaire a la possibilité de combiner deux choses. Et l'assemblage binaire est aussi le type d'assemblage plus simple, parce qu'un assemblage NR serait plus compliqué, parce qu'il aurait besoin de N cases de mémoire à l'intérieur du dispositif pour fonctionner. Donc l'assemblage binaire, on peut dire, est la forme la plus simple possible de l'assemblage pour obtenir certains résultats expressifs, comme le fait de combiner les mots. Donc on peut dire que si l'assemblage binaire est la forme la plus simple de l'assemblage, alors nécessairement les structures seront binaires. C'est pas parce qu'elles sont toujours obtenues par cette opération qui a la caractéristique de toujours prendre deux éléments en entrée et de former une structure en sortie. Donc il y a l'argument empirique, l'argument de Kane et des autres qui ont travaillé sur la question. Il y a la possibilité de réfléchir à les causes de cet état de choses. Et il y a d'autres réflexions qui peuvent être suggérées par cette manière de formuler les problèmes. Ici, je voudrais citer un article récent de Chris Collins qui souligne le fait qu'un système ayant le branchement binaire présente des avantages en termes d'apprenabilité. Donc un système avec le branchement binaire en quelque sorte facilite la tâche à l'enfant qui doit apprendre la langue. Considérez la situation de l'enfant qui doit apprendre la langue. Il entend des phrases de 3, 4, 5, 6 mots, évidemment. Il doit associer un arbre à chacune de ces phrases afin de l'interpréter de manière appropriée. Alors, l'observation que Collins fait est qu'un système de branchement binaire permet un beaucoup plus petit nombre d'arbres associés à chaque séquence de mots par rapport à un système beaucoup plus libre comme l'assemblage NR. L'exemple qui est donné ici par Chris Collins et des phrases de 4 mots. Hein, donc supposons des mots comme X, Y, Z, W. En principe, un système à assemblage NR permettrait 11 arbres possibles. Ici, les arbres sont représentés en termes de structure à parenthèse, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, un arbre serait un arbre totalement plat, où il y a un nœud qui domine immédiatement X, Y, Z, W. C'est la première structure. Ou bien il pourrait y avoir une structure avec X, Y, Z qui sont associés au même nœud et qui s'opposent à l'élément W, etc., etc. Donc il y a simplement, mathématiquement, 11 possibilités d'arbres. Par contre, si on adopte un système à assemblage binaire, ces options se réduisent à 5 seules possibilités. Hein, donc, par exemple, la première n'est pas compatible avec l'assemblage binaire parce qu'un arbre plat de ce type n'est pas compatible. La deuxième n'est pas compatible non plus. La troisième, elle est compatible avec l'assemblage binaire parce que vous mettez ensemble deux éléments et puis l'entité créée est mise ensemble avec un autre élément, et puis l'entité créée est mise ensemble avec un autre élément. Donc ça, c'est compatible avec l'assemblage binaire, mais pas d'autres cas. Et si on considère des situations avec un nombre de mots plus grand, on voit tout de suite que le nombre d'arbres possibles dans un système avec l'assemblage NR croît beaucoup plus rapidement que le nombre d'arbres possibles avec un assemblage binaire. Donc, par exemple, nous avons vu le cas de 4, 11 arbres possibles pour l'assemblage NR et seulement 5 pour l'assemblage binaire. Puis on arrive, par exemple, supposons à 10 mots, où il y a 100 000, plus que 100 000 arbres possibles pour toute phrase de 10 mots avec l'assemblage NR, et seulement un peu moins que 5 000 arbres possibles avec l'assemblage binaire. Donc, le point de Collins est que le fait que les langues naturelles utilisent l'assemblage binaire, qui est la procédure la plus simple, a aussi cet effet bénéfique sur la question de l'apprenabilité. C'est une structuration du système qui réduit le nombre de possibilités, qui donc facilite la tâche de l'enfant qui doit apprendre la langue. Alors je vous signale simplement, pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques, que cette progression, la progression des arbres par rapport au nombre de mots, hein, ce que Collins appelle feuille, n'est-ce pas, parce que les mots sont comme les feuilles de l'arbre dans ce type de métaphore, hein, cette progression est la progression des nombres, ainsi dit, de Catalan, d'après le mathématicien Eugène Charles Catalan, mathématicien français belge, qui avait étudié ce type de progression pour toute autre raison. Tandis que la progression des nombres d'arbres associables à des structures avec N mots par un merge ou l'assemblage NR et une autre structure étudiée en mathématiques est appelée Super Catalan Numbers, les super nombres de Catalan. Donc en tout cas, le point que Collins essaye de faire est que la formulation la plus économique de l'assemblage, compatible avec les nécessités expressives du langage, l'assemblage binaire, a donc aussi l'effet de réduire significativement l'espace des hypothèses que l'apprenant doit faire pour assigner une structure aux phrases de la langue. Conclusion intéressante. Donc, connexion déductive, nous l'avons déjà en quelque sorte annoncé, la nature hiérarchique des représentations est un corollaire de l'assemblage binaire récursif. Donc, par exemple, il ne sera pas possible de construire un arbre plat de ce type dans les langues naturelles si l'assemblage est binaire. La seule possibilité sera d'obtenir une structure de cette sorte. Pas la seule possibilité, mais en tout cas, il y aura un nombre restreint de possibilités qui auront nécessairement une organisation hiérarchique en ce sens. Et également, autre connexion déductive, le déplacement est une conséquence de la possibilité de déplacement est une conséquence de l'assemblage. Hein, donc la double possibilité peut être vue, assemblage interne, assemblage externe, comme la conséquence d'un choix de simplicité. Si on ne pose pas de restrictions sur l'origine des éléments assemblés A et B, qui peuvent donc être indépendants, séparés avant l'opération ou bien déjà associés dans la même structure, le déplacement devient une conséquence automatique d'une formulation optimalement simple de l'assemblage. Simplement, en ne mettant pas de restriction, l'assemblage donne automatiquement la possibilité du déplacement. Donc, en quelque sorte, les trois propriétés universelles que nous avons discutées peuvent être ramenées à une seule cause, d'une certaine manière, qui est l'assemblage binaire récursif. Voilà, la dernière fois, nous avons discuté de plusieurs cas de structuration hiérarchique, et nous avons en particulier comparé les jugements humains par rapport à certains jugements qui étaient donnés par ce système qui a frappé beaucoup de nous, en tout cas qui m'a personnellement frappé par la qualité ces productions en langue naturelle, donc le chat GPT. On avait essayé de dire, si on regarde les réponses de chat GPT, on a bien l'impression que ce sont des productions humaines. Mais on avait soulevé la question, est-ce que si on regarde des points très détaillés, très fins de structure linguistique, on trouve les mêmes propriétés, on trouve le même jugement qui sont donnés par les humains. Et on avait vu qu'en effet, il y avait certaines différences. Par exemple, dans le cas de la corréférence, on avait observé que le jugement humain dans une langue comme l'anglais est que la seule configuration dans laquelle un pronom et un nom ne peuvent pas être corréférentiels est celle-ci. Mais si le pronom et le nom ne sont pas dans une relation de ces commandes, indépendamment de l'ordre linéaire, si le nom précède le pronom ou le pronom précède le nom, on peut avoir la corréférence. Donc en anglais, « the people who John talks to say that he's a nice guy », qui peut être John, ou « the people who he talks to say that John is a nice guy ». Ici aussi, malgré le fait que « he » précède l'expression nominale, on peut avoir la corréférence. On avait posé la question à ChatGPT pour voir ce qui se passait, et le résultat avait été une généralisation différente, c'est-à-dire le système artificiel avait mis ensemble les deux cas où le pronom précède le nom, indépendamment de la structuration hiérarchique, et avait dit que non, la corréférence n'est pas possible dans ces deux cas. La corréférence est uniquement possible dans les cas où le nom précède le pronom, indépendamment de la structuration hiérarchique. Donc, généralisation d'une nature différente. J'ai refait la petite expérience avec des exemples en français, en posant la question en français. Donc, cas de base, Jean dit qu'il est content. Cas où la corréférence n'est pas possible, il dit que Jean est content. Donc, il dit que Jean est content. Évidemment, il ne peut pas être Jean, doit être quelqu'un d'autre. Et puis, les deux cas où il n'y a pas de ces commandes, donc où le nom et le pronom sont, pour ainsi dire, au même niveau structurel, et là, la corréférence est possible, quel que soit l'ordre linéaire. Donc, quand Jean est content, il chante, il peut être Jean, bien sûr, mais aussi, quand il est content, Jean chante, il peut bien être Jean. Voilà, interaction avec ChatGPT, voyons directement les résultats. Même chose que pour l'anglais. Donc, ce n'était pas spécifique, lié au fait qu'on avait testé des cas en anglais la semaine dernière. Même ici, même en posant la question en français et sur des exemples français, la généralisation qui est proposée est la même. Quand le pronom précède le nom, la corréférence n'est pas possible, ce qui est la réponse humaine correcte dans le cas de « il dit que Jean est content », mais ce qui n'est pas la réponse humaine dans le cas de « quand il est content, Jean chante ». Donc, en comparant le jugement humain en français, et le jugement du système artificiel, on voit cette différence. Le jugement humain est sensible à la propriété hiérarchique, à ses commandes, tandis que le système artificiel est sensible, pour ce type d'exemple, à la propriété linéaire, à la précédence. On avait continué la dernière fois et on s'était posé la question suivant, en effet, une petite expérience faite avec d'interaction avec ChatGPT de notre collègue Martin Everhart. On avait demandé si la corréférence était possible dans l'exemple que nous avons discuté au début de la leçon aujourd'hui. near John, he saw a lion. Est-ce que he peut être John? En anglais, jugement humain, exactement comme en français, près de Jean, il a vu un lion. Pas possible. Il ne peut pas être Jean. Il doit être quelqu'un d'autre. Ok? Mais la réponse de ChatGPT était différente. In the sentence near John, he saw a lion, it is ambiguous as to who the pronoun he refers to. It could refer to John, or it could refer to someone else who saw the lion near John. Mais en tout cas, donc la coréférence entre John et he est acceptée pour, par la machine. Donc, au moins pour ce genre d'exemple, ChatGPT ne construit pas de représentation abstraite et se base uniquement sur l'ordre linéaire des mots tels qu'ils sont présentés. Pas de traces, pas de reconstruction et donc un jugement linéaire sur des représentations fondamentalement linéaires. On peut essayer de se poser la question ultérieurement de manière indépendante de, des effets de reconstruction. Est-ce que ChatGPT considère des opérations de déplacement et des traces en général? L'exemple que j'ai essayé de tester a à faire avec le contraste d'interprétation entre ces deux phrases en français. Quel policier a contacté les journalistes? Et quels policiers ont contacté les journalistes? Vous voyez, on a dans les deux cas une structure syntagme nominal, verbe syntagme nominal, mais l'interprétation est radicalement différente. Et la différence interprétative est indiquée par l'accord verbal qui indique que la première structure est une structure sujet-verbe-objet, quel policier sujet, tandis que la deuxième structure est une structure à interpréter comme objet-verbe-sujet avec un bouleversement complet de l'ordre déterminé par plusieurs applications de la règle, d'une règle de mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans l'analyse standard de cette structure? Bien, ici, j'adopte l'analyse de Kane-Pollock de l'inversion stylistique. Donc, pour la première phrase, quel policier a contacté le journaliste? On part d'une représentation où quel policier est en position sujet, où il déclenche l'accord de l'élément verbal qui sera au singulier dans cette structure. Ensuite, il pourra y avoir un déplacement de l'élément interrogatif à la périphérie de la structure et on obtiendra en tout cas une configuration à l'ordre sujet-verbe-objet avec l'interprétation de quel policier comme sujet. Par contre, la structure « quel policier ont contacté les journalistes » démarrera par une configuration abstraite du type « les journalistes en position sujet ont contacté le policier » objet, quel policier, pardon, où l'accord pourra se faire comme d'habitude entre sujet et forme verbale à fléchir. Ensuite, il y aura des mouvements, quel policier sera déplacé vers la périphérie gauche, vraisemblablement, à une position de focus dans la périphérie gauche. Et ensuite, il y aura l'inversion de l'élément verbal, ici je suis l'analyse de Kane et Pollock, ce qui déterminera un ordre complètement bouleversé, donc objet, verbe, sujet. Est-ce que ChatGPT est prêt à faire ce type d'analyse? Réponse, non. Regardons directement la réponse. Donc ma question... Je ne sais pas pourquoi j'ai posé ici la question en anglais. J'aurais pu utiliser le français, bien sûr. En tout cas, est-ce que les phrases suivantes sont grammaticales? Quel policier a contacté les journalistes? Quels policiers ont contacté le journaliste? Réponse, non. The second sentence is not grammatical in French. The correct sentence should be, bon, quel policier a contacté le journaliste? Ça va, mais il corrige la deuxième phrase en mettant l'élément WH au pluriel. Donc, il obtient quel policier pluriel ont contacté le journaliste. Which means, which policemen contacted the journalists, and is in the plural form because policier, policeman, is plural and the verb en contacter agrees with it. Okay? Donc, pratiquement, le système n'accepte pas la structure bouleversée par le mouvement et impose, corrige, et la corrige de manière qu'elle soit toujours SVO, fondamentalement. Okay? Donc, conclusion, plusieurs conclusions intéressantes peuvent être tirées de ces observations. Les locuteurs humains assignent des représentations abstraites aux phrases, abstraites dans le sens que, qu'elles sont organisées hiérarchiquement, qu'elles sont dérivées par le déplacement, qu'elles sont enrichies de traces qui sont responsables des effets de reconstruction, comme nous avons vu, et qui sont accessibles à des procédures interprétatives basées sur une notion hiérarchique, comme la sécommande. Dans les cas pris en considération, ChatGPT analyse la structure et l'interprétation des phrases sur la base de stratégies d'ordre linéaire, donc pas d'effet de sécommande dans l'interprétation, accord sur la base de l'ordre linéaire des mots, et appliqué sur les séquences de mots que le système artificiel reçoit en input, donc sans déplacement, sans trace, sans effet de reconstruction. Alors, pour les phénomènes morphosyntaxiques et interprétatifs que nous avons considérés, le système artificiel postule donc des représentations concrètes basées sur les mots exprimés uniquement, sans trace, sans reconstruction, et sur lesquels il applique des règles linéaires pour l'accord et pour l'interprétation. Pour ces phénomènes, il y a donc un double ordre de contraste avec le locuteur humain. Donc l'humain a des règles hiérarchiques et des représentations abstraites. La machine a des règles, utilise des règles linéaires et travaille avec des représentations concrètes dans le sens que nous avons défini. Alors, étant donné la qualité remarquable des textes engendrés en langue naturelle, je pense que ChatGPT doit nécessairement pouvoir être sensible à certains aspects de l'organisation hiérarchique. Autrement, la qualité des structures produites par la machine ne serait pas aussi bonne qu'on l'observe. Donc, il doit y avoir quelques formes rudimentaires d'accès aux structures hiérarchiques. Mais le point crucial ici est que le système artificiel ne généralise pas l'organisation hiérarchique et les représentations abstraites à tous les cas, ce que les locuteurs humains font systématiquement. Donc le locuteur humain admet toujours des représentations hiérarchiques, abstraites, et applique des règles hiérarchiques, tandis que ChatGPT probablement procède cas par cas. Et dans les cas dans lesquels nous avons testé le système artificiel, nous avons obtenu un résultat qui montre clairement qu'il opère avec des règles de représentation qui sont différentes par rapport aux règles et aux représentations de l'utilisateur humain. Voilà, je vais très vite introduire le prochain argument dont on parlera vraiment la prochaine fois. Entre autres, le cours et le séminaire n'auront pas lieu vendredi prochain. Donc, notre prochaine rencontre sera le 16 juin. Voilà, nous avons beaucoup parlé d'invariance jusqu'ici. L'invariance est un élément constitutif du langage naturel, nous l'avons vu. Certaines propriétés fondamentales sont constantes à travers les langues. Elles sont vraiment très, très profondes, sont liées aux mécanismes très, très basiques du langage. Les trois propriétés en particulier que nous avons discutées ont ces caractéristiques. Mais il y a l'autre aspect, évidemment. Les langues varient aussi, varient à tous les niveaux de représentation. varie dans la phonologie. Les sons sont très différents d'une langue à l'autre. La morphologie est différente. La syntaxe est différente. La sémantique, la pragmatique peuvent être significativement différentes. Donc, le problème se pose de représenter de manière cohérente et efficace les deux pôles distincts de l'invariance et de la variation linguistique. Alors, cette dialectique est exprimée dans la tradition intellectuelle dans laquelle je me situe par les deux notions de grammaire particulière et de grammaire universelle. Et ces deux notions ont évolué significativement dans les dernières décennies. Je vais vite parler des deux concepts de grammaire particulière et grammaire universelle dans les modèles des années 50, 60 et 70, et puis je parlerai la prochaine fois de la révolution introduite par la théorie des paramètres. Donc, dans les cadres très traditionnels de grammaire générative, tout était axé sur la notion de grammaire particulière. Donc, l'idée était que chaque langue a sa propre grammaire générative, donc formelle, précise, qui est un système de règles spécifiques et particulières de la langue. Donc, il y a la grammaire du français, la grammaire de l'italien, la grammaire dans certains dialectes de l'italien, la grammaire du chinois, et ainsi de suite. Il y a aussi un système général, celui de la grammaire universelle, et à l'époque, la grammaire universelle était conçue comme une sorte de métathéorie grammaticale, spécifiant le format possible de la grammaticale. Donc, la grammaire universelle indiquait quels étaient les types de règles qu'on pouvait trouver dans les grammaires particulières. Par exemple, on peut construire des structures à partir de règles de réécriture qui ont ce formalisme. On peut construire des transformations qui sont capables d'opérer, de produire certaines opérations, et ainsi de suite. Et donc, si la grammaire particulière est la théorie d'une langue, la grammaire universelle était considérée une métathéorie grammaticale, donc une théorie de la langue, spécifiant le format possible et certaines conditions générales sur l'application des règles. Le problème principal avec ce type d'approche était lié à son caractère insuffisamment restrictif. La grammaire universelle, conçue de cette manière, définissait trop faiblement les restrictions sur les règles grammaticales possibles. Le système était donc trop faible dans la définition de la notion de langue humaine possible. Nous voulons une définition aussi précise que possible de cette notion, une définition qui puisse exclure les propriétés que nous ne trouvons pas dans les langues humaines. Et il y avait ce problème d'insuffisante restrictivité dans le système classique, disons, de grammaire générative. Et cette difficulté conceptuelle avait des répercussions analytiques. Donc ce cadre, axé sur la notion de grammaire particulière, conçue comme un système de règles spécifiques de la langue, rendait la comparaison linguistique très difficile. Et les grammaires ainsi construites avaient un certain air de famille, mais n'arrivaient pas à isoler clairement ce qui varie et ce qui demeure constant. Par exemple, je me souviens que quand j'étudiais ici à Paris, dans les années 70, je travaillais avec des grands spécialistes de la syntaxe du français, comme Kane et Ruvet, qui avaient construit des fragments de grammaire générative du français très efficaces, très bien structurés. Moi, j'essayais de faire la même chose pour l'italien. Puis, en comparant les deux systèmes, on observait cette sorte d'air de famille, sans vraiment pouvoir indiquer de manière précise ce qui restait constant et ce qui variait. Donc, on devait recommencer chaque fois dès le début, pour ainsi dire, en construisant la grammaire d'une nouvelle langue. Ce qui n'était pas satisfaisant. Évidemment, ce que nous devons pouvoir faire, c'est de pouvoir nettement distinguer ce qui reste constant à travers les langues et ce qui varie, et quelles sont les domaines de variation possibles. Et puis cette insuffisante restrictivité avait donc des conséquences restrictives, mais aussi des conséquences sur la pratique descriptive même, mais aussi des conséquences du point de vue de l'apprenabilité, n'est-ce pas, l'ensemble trop vaste de possibilités grammaticales laissées ouvertes par ce système déterminait des problèmes majeurs du point de vue d'une théorie de comment l'acquisition du langage a lieu. Comment l'enfant peut-il s'emparer d'un système aussi complexe que la grammaire adulte dans un temps très limité, s'il doit choisir parmi un ensemble très vaste de grammaire possible? Il doit y avoir plus de restrictions fondamentalement qui guident l'enfant à considérer certaines hypothèses et à écarter a priori certaines autres hypothèses. Mais ce système axé sur la notion de grammaire particulière n'avait pas ce type de caractéristiques. Vers la moitié des années 70, cette idée de paramètre a été introduite d'abord de manière complètement abstraite. Hein. Par exemple, on lit dans cet article de Chomsky, Conditions and Rules of Grammar, Cross-linguistically variable conditions can be regarded as parameters that have to be fixed in language learning. Donc on peut penser qu'il y a dans certaines conditions générales des paramètres, donc des points de choix binaires qui doivent être fixés sur la base de l'expérience. Donc l'enfant entend certaines données empiriques, les phrases qui sont produites dans sa communauté, et sur cette base, il détermine la valeur de ce système de paramètres. Et à partir de ces indications purement abstraites, on a commencé, dans la deuxième moitié des années 70, à explorer certains cas possibles de paramètres. Le tout premier cas était un cas qui, a posteriori, s'est révélé très peu plausible comme cas de paramétrisation. Je m'en étais occupé, ça avait à voir avec le fonctionnement un peu différent des principes de localité en passant d'une langue à l'autre. Mais il y a eu tout de suite des cas beaucoup plus solides de paramétrisation qui ont été pris en considération, comme le cas du paramètre du sujet nul, et plusieurs cas qui ont été étudiés par Kane dans ses travaux de la deuxième moitié des années 70. Donc toutes ces tentatives d'exploration de la notion de paramètre ont été englobées dans un nouveau système, dans un nouveau cadre, qui est le cadre des principes et paramètres, présenté par Chomsky dans les Lectures on Government and Binding, dont on va parler la prochaine fois, pour voir aussi quels ont été les développements ultérieurs et l'incorporation de ce cadre, de cette notion de paramètres, dans le programme minimaliste. Mais donc on va en reparler la prochaine fois. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On fera maintenant une petite pause et ensuite il y aura le séminaire de Emiliano Zaccarella à 11h30.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.